Elle se moqua de moi. « Nous ne sommes pas faits pour planter des choux, » dit-elle. « Notre destin, à nous, c'est de vivre aux dépens des payos. Tiens, j'ai arrangé une affaire avec Nathan Ben Joseph de Gibraltar. Il a des cotonnades qui n'attendent que toi pour passer. Il sait que tu es vivant. Il compte sur toi. Que diraient nos correspondants de Gibraltar si tu leur manquais de parole ?» Je me laissai entraîner et je repris mon vilain commerce. Pendant que j'étais caché à Grenade, il y eut des courses de taureaux où Carmen alla. En revenant, elle parla beaucoup d'un picador très adroit, nommé Lucas. Elle savait le nom de son cheval et combien lui coûtait sa veste brodée. Je n'y fis pas attention. Juanito, le camarade qui m'était resté, me dit quelques jours après qu'il avait vu Carmen avec Lucas, chez un marchand du Zacatin. Cela commença à m'alarmer. Je demandai à Carmen comment et pourquoi elle avait fait connaissance avec le picador. « C'est un garçon, me dit-elle, avec qui on peut faire une affaire. Rivière qui fait du bruit a de l'eau ou des cailloux. Il a gagné 1200 réaux aux courses. De deux choses l'une, ou bien il faut avoir cet argent, ou bien, comme c'est un bon cavalier et un gaillard de cœur, on peut l'enrôler dans notre bande. Un tel et un tel sont morts. Tu as besoin de les remplacer. Prends-le avec toi. Je ne veux, répondis-je, ni de son argent, ni de sa personne, et je te défends de lui parler. Prends garde, me dit-elle. Lorsqu'on me défie de faire une chose, elle est bientôt faite. Heureusement, le picador partit pour Malaga, et moi, je me mis en devoir de faire entrer les cotonnades du juif. J'eus fort à faire dans cette expédition-là, Carmen aussi, et j'oubliais Lucas. Peut-être aussi l'oublia-t-elle pour le moment du moins. C'est vers ce temps, monsieur, que je vous rencontrai, d'abord près de Montilla, puis après à Cordoue. Je ne vous parlerai pas de notre dernière entrevue. Vous en savez peut-être plus long que moi. Carmen vous vola votre montre. Elle voulait encore votre argent, et surtout cette bague que je vois à votre doigt, et qui, dit-elle, est un anneau magique, qui lui importait beaucoup de posséder. Nous eûmes une violente dispute, et je la frappai. Elle pâlit et pleura. C'était la première fois que je la voyais pleurer, et cela me fit un effet terrible. Je lui demandai pardon, mais elle me bouda pendant tout un jour, et quand je repartis pour Montilla, elle ne voulut pas m'embrasser. J'avais le cœur gros. Lorsque 3 jours après, elle vint me trouver l'air riant et gai comme Pinson. Tout était oublié, et nous avions l'air d'amoureux de 2 jours. Au moment de nous séparer, elle me dit « Il y a une fête à Cordoue, je vais la voir. Puis je saurai les gens qui s'en vont avec de l'argent, et je te le dirai. » Je la laissai partir seule. Je pensais à cette fête et à ce changement d'humeur de Carmen. « Il faut qu'elle se soit vengée déjà, me dis-je, puisqu'elle est revenue la première. Un paysan me dit qu'il y avait des taureaux à Cordoue. Voilà mon sang qui bouillonne, et comme un fou je pars et je vais à la place. On me montra Lucas, et sur le banc, contre la barrière, je reconnus Carmen. Il me suffit de la voir 1 minute pour être sûr de mon fait. Lucas, au premier taureau, fit le joli cœur, comme je l'avais prévu. Il arracha la cocarde du taureau et la porta à Carmen, qui s'en coiffa sur le champ. Le taureau se chargea de me venger. Lucas fut culbuté avec son cheval sur la poitrine, et le taureau par-dessus tous les deux. Je regardai Carmen. Elle n'était déjà plus à sa place. Il m'était impossible de sortir de celle où j'étais, et je fus obligé d'attendre la fin des courses. Alors j'allai à la maison que vous connaissez, et je m'y tins quoi toute la soirée. Et une partie de la nuit. Vers 2 heures du matin, Carmen revint et fut un peu surprise de me voir. « Viens avec moi, lui dis-je. »« Eh bien, dit-elle, partons. » J'allai prendre mon cheval, je la mis en croupe et nous marchâmes tout le reste de la nuit sans nous dire un mot. Nous nous arrêtâmes au jour dans une venta isolée, assez près d'un petit ermitage. Là, je dis à Carmen « Écoute, j'oublie tout. Je ne te parlerai de rien, mais jure-moi une chose. C'est que tu vas me suivre en Amérique et que tu t'y tiendras tranquille. » Non, dit-elle d'un ton boudeur. Je ne veux pas aller en Amérique. Je me trouve bien ici. C'est parce que tu es près de Lucas. Mais songe-y bien. S'il guérit, ce ne sera pas pour faire de vieux os. Au reste, pourquoi m'en prendre à lui? Je suis là de tuer tous tes amants. C'est toi que je tuerai. Elle me regarda fixement de son regard sauvage et me dit « J'ai toujours pensé que tu me tuerais. La première fois que je t'ai vue, je venais de rencontrer un prêtre à la porte de ma maison. Et cette nuit, en sortant de Cordoue, n'as-tu rien vu ? Un lièvre a traversé le chemin entre les pieds de ton cheval. C'est écrit. Carmencita, lui demandai-je, est-ce que tu ne m'aimes plus ? Elle ne répondit rien. Elle était assise, les jambes croisées, sur une natte, et faisait des traits par terre avec son doigt. « Changeons de vie, Carmen, » lui dis-je d'un ton suppliant. « Allons vivre quelque part où nous ne serons jamais séparés. Tu sais que nous avons, pas loin d'ici, sous un chêne, 120 onces enterrées. Puis nous avons des fonds encore chez le juif Ben Joseph. » Elle se mit à sourire et me dit. « Moi d'abord, toi ensuite. Je sais bien que cela doit arriver ainsi. » Réfléchis, repris-je. Je suis au bout de ma patience et de mon courage. Prends ton parti ou je prendrai le mien. Je la quittai et j'allais me promener du côté de l'ermitage. Je trouvai l'ermite qui priait. J'attendis que sa prière fût finie. J'aurais bien voulu prier, mais je ne pouvais pas. Quand il se releva, j'allai à lui. Mon père, lui dis-je, voulez-vous prier pour quelqu'un qui est en grand péril ? Je prie pour tous les affligés, dit-il. Pouvez-vous dire une messe pour une âme qui va peut-être paraître devant son Créateur ? Oui, répondit-il en me regardant fixement. Et comme il y avait dans mon air quelque chose d'étrange, il voulut me faire parler. Il me semble que je vous ai vu, dit-il. Je mis un piastre sur son banc. Quand direz-vous la messe ? Lui demandai-je. Dans une demi-heure. Le fils de l'aubergiste de là-bas va venir la servir. Dites-moi, jeune homme. N'avez-vous pas quelque chose sur la conscience qui vous tourmente ? Voulez-vous écouter les conseils d'un chrétien ? Je me sentais près de pleurer. Je lui dis que je reviendrais, et je me sauvais. J'allais me coucher sur l'herbe, jusqu'à ce que j'entendisse la cloche. Alors je m'approchai, mais je restai en dehors de la chapelle. Quand la messe fut dite, je retournai à la Venta. J'espérais presque que Carmen se serait enfuie. Elle aurait pu prendre mon cheval et se sauver. Mais je la retrouvai. Elle ne voulait pas qu'on pût dire que je lui avais fait peur. Pendant mon absence, elle avait défait l'ourlet de sa robe pour en retirer le plomb. Maintenant, elle était devant une table, regardant dans une terrine pleine d'eau le plomb qu'elle avait fait fondre et qu'elle venait d'y jeter. Elle était si occupée de sa magie qu'elle ne s'aperçut pas d'abord de mon retour. Tantôt, elle prenait un morceau de plomb et le tournait de tous les côtés d'un air triste. Tantôt, elle chantait quelqu'une de ses chansons magiques, où elles invoquent Marie Padilla, la maîtresse de Don Pedro, qui fut, dit-on, la Ban Kraliza ou la grande reine des Bohémiens. Carmen, lui dis-je, voulez-vous venir avec moi ? Elle se leva, jeta sa sibylle et mit sa mantille sur sa tête, comme prête à partir. On m'amena mon cheval, elle monta en croupe et nous nous éloignâmes. Ainsi, lui dis-je ma Carmen, après un bout de chemin, tu veux bien me suivre, n'est-ce pas ? Je te suis à la mort, oui, mais je ne vivrai plus avec toi. Nous étions dans une gorge solitaire. J'arrêtai mon cheval. Est-ce ici ? Dit-elle, et d'un bond elle fut à terre. Elle ôta sa mantille, la jeta à ses pieds, et se tint immobile, un poing sur la hanche, me regardant fixement. Tu veux me tuer, je le vois bien, dit-elle. C'est écrit, mais tu ne me feras pas céder. Je t'en prie, lui dis-je, sois raisonnable. Écoute-moi. Tout le passé est oublié. Pourtant, tu le sais, c'est toi qui m'as perdu. C'est pour toi que je suis devenu un voleur et un meurtrier, Carmen. Ma Carmen, laisse-moi te sauver et me sauver avec toi. José, répondit-elle, tu me demandes l'impossible. Je ne t'aime plus. Toi, tu m'aimes encore. Et c'est pour cela que tu veux me tuer. Je pourrais bien encore te faire quelques mensonges, mais je ne veux pas m'en donner la peine. Tout est fini entre nous. Comme mon Rome, tu as le droit de tuer ta Romy. Mais Carmen sera toujours libre. Cali, elle est née. Cali, elle mourra. Tu aimes donc Lucas, lui demandai-je. Oui, je l'ai aimé. Comme toi, un instant. Moins que toi, peut-être. À présent, je n'aime plus rien. Et je me hais pour t'avoir aimé. Je me jetai à ses pieds. Je lui pris les mains. Je les arrosai de mes larmes. Je lui rappelai tous les moments de bonheur que nous avions passés ensemble. Je lui offris de rester brigand pour lui plaire. Tout, monsieur, tout. Je lui offris tout, pourvu qu'elle voulût m'aimer encore. Elle me dit, « T'aimer encore ? C'est impossible. Vivre avec toi, je ne le veux pas. » La fureur me possédait. Je tirai mon couteau. J'aurais voulu qu'elle eût peur et me demanda grâce, mais cette femme était un démon. « Pour la dernière fois, m'écriai-je, veux-tu rester avec moi ?»« Non, 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 dit-elle en frappant du pied. » Et elle tira de son doigt une bague que je lui avais donnée et la jeta dans les broussailles. Je la frappai deux fois. C'était le couteau du borgne que j'avais pris, ayant cassé le mien. Elle tomba au second coup, sans crier. Je crois encore voir son grand œil noir me regarder fixement. Puis il devint trouble et se ferma. Je restai anéanti une bonne heure devant ce cadavre. Puis je me rappelai que Carmen m'avait dit souvent qu'elle aimerait à être enterrée dans un bois. Je lui creusai une fosse avec mon couteau et je l'y déposai. Je cherchai longtemps sa bague et je la trouvai à la fin. Je la mis dans la fosse, auprès d'elle, avec une petite croix. Peut-être ai-je eu tort. Ensuite, je montai sur mon cheval. Je galopai jusqu'à Cordoue, et au premier corps de garde, je me fis connaître. J'ai dit que j'avais tué Carmen. Mais je n'ai pas voulu dire où était son corps. L'ermite était un saint homme. Il a prié pour elle. Il a dit une messe pour son âme. Pauvre enfant. Ce sont les Calais qui sont coupables pour l'avoir élevée ainsi.